C'est amplifié, mais c'est beaucoup de spécialisation. C'est plus la spécialisation que...
Oui, il y a vraiment un collectif spécifique.
Au final, ouais. Au final, c'est pas mal de...
Tu bosses avec Étienne là-dessus ou...
Ouais, c'était avec Étienne, hein, et puis... Ouais, il y a pas mal de boulot de ce temps parce que... Il n'y a rien de violent dans le cadeau, c'est ton. Le violent de l'action, c'est un peu ton.
Photographie sonore. Portrait d'Alexis Degrenier. Cliché audio pris le 2 octobre 2025 entre 15h et 18h par François Berchenko. Salle Le Vent des Cygnes à Toulouse, 6 impasse Varsovie.
Sur le patch, j'ai un floor contact mic.
Ça
joue ça ou pas ?
Peut-être que ça bosse en Suisse, pas ?
Quartier Saint-Cyprien.
Ça joue, je n'entends plus là-bas,
c'est marrant. C'est vrai ?
Oui, c'est ça.
Ça sera de quel côté ?
C'est celui-là.
Tac.
En fait, il est sous les pierres. Et c'est un, il sert que pour renforcer des basses à la haute tête.
Ok. Votre son, c'est lui qui a le micro, c'est ça ?
Là, il y en a une partie là.
Ah, ok.
Oui, alors je m'appelle Alexis Degrenier, je suis compositeur et percussionniste, j'essaye d'être autre chose quand même, c'est-à-dire que je suis donc à la fois je compose et je joue en solo et dans quelques ensembles encore, mais je travaille également maintenant en tant qu'enseignant à l'école d'art de Clermont-Ferrand, où j'enseigne les questions musicales, la philosophie de la musique et ce genre de choses avec toutes les ramifications philosophiques que ça peut avoir. Voilà. Globalement, est-ce que c'est une présentation, ça ?
C'est pas mal.
C'est
ça appelle d'autres questions, en tout cas.
Eh bien, vas-y, alors, d'autres questions.
Tu as dit tout à l'heure, hein, je suis batteur, mais pas que, j'essaie d'être un peu plus. C'est important d'être un peu plus que juste se cantonner à son instrument, alors.
Moi, je crois que c'est toujours important d'être un peu plus que ce qu'on est. C'est-à-dire savoir que ce qu'on est, mais toujours penser que le un peu plus est possible. Donc, quand je dis un peu plus, c'est que j'aimerais bien être plutôt musicien que percussionniste. C'est-à-dire réduire la question et être même plus généralement... essayer de penser la musique plutôt que d'être simplement musicien. Donc ça inclut de composer, mais ça inclut aussi toute une pensée qui est extra-musicale pour penser la musique, je pense. Donc ça, pour moi, ça a une importance.
Donc dans la transmission du savoir et à une activité de création artistique
La transmission, c'est récent. Parce que j'ai, en fait, je ne crois pas que je transmette des savoirs, je pense que je transmets des choses qu'on apprend... ensemble, en fait, c'est-à-dire que j'essaie de créer des espaces de pensée à partir d'écoute, mais ça va de Monteverdi, de musique ancienne, à PNL, du rap, qui permettent de penser, qui permettent de penser la musique. C'est ça, moi, qui... Et notamment, en ce moment, beaucoup sur les questions des affects. J'ai tout un cours sur les affects musicaux et les effets et les affects, voilà. Je travaille beaucoup là-dessus.
PNL Monteverdi.
Ah ben, eh bien, il y a quelque chose, il y a des points communs, vraiment. Si on écoute l'album Que la famille, cette année, par exemple, je travaille beaucoup sur la mélancolie. Donc, en fait, il y a aussi bien les figures de Monteverdi que de PNL. Je pense que c'est pour ça que j'ai cité ces deux-là, mais il y a aussi, j'en souriais tout à l'heure pendant qu'on faisait le, où j'ai discuté avec mon ami Raoul. On parlait de philosophie et. Je disais, bah oui, mais en fait, Spinoza pourrait pas penser de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire que Spinoza, bon, il écouterait peut-être PNL aujourd'hui. Un penseur des affects, on peut imaginer qu'il penserait pas la mort de la même manière. Il penserait pas la finitude des choses de la même manière, étant donné qu'il y a des outils pour faire renaître de la mort. C'était pas son cas, on mourait. Maintenant, on peut avoir le cœur qui s'arrête quelques minutes et on peut repartir. Moi, je pense que ça change beaucoup de choses. Pour penser la mort. Puisque maintenant, on peut avoir vécu la mort. Vaincu, c'est une autre chose, parce que moi, j'ai pas envie de rentrer en guerre, mais on peut avoir vécu la mort. Ça, c'est quelque chose qui... On pouvait pas parler de la mort avant. Maintenant, on peut en parler, en l'ayant vécu. Moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi je parle de la mort, parce que c'est parler de la vie, plutôt, mais... Mais c'est pareil que la mélancolie, c'est ce que je disais. C'est... Tout ce qu'on cherche là-dedans, c'est la lumière. C'est pas... Quand on est dans l'ombre, on cherche la lumière. Quand on est mélancolique, on cherche la lumière. Quand on meurt, on cherche la vie, donc on cherche la lumière aussi. Et après, quand on a trop de vie, on cherche l'ombre. C'est peut-être là le problème. De côtoyer les ombres.
C'est ce genre de pensée, de réflexion qui alimente un peu ton jeu musical ou ce que tu essayes de transmettre en termes d'esthétique sonore ?
C'est une bonne question. Mais je pense que tout anime tout, mais à partir du moment où on le fait rentrer dans une structure. Mais oui, cette pensée-là de la fin des choses possibles, en tout cas. C'est-à-dire de l'impossible. C'est-à-dire de qu'est-ce que je peux faire quand je suis empêché de. Donc dans mon cas, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis en fauteuil roulant, donc... En étant percussionniste et batteur à la base, on joue quand même avec les quatre membres. Maintenant, il me manque deux membres pour jouer. Donc, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce qui est possible de faire à partir de quelque chose d'impossible ? Et c'est ça qui nourrit, je crois en tout cas, la pensée. Le discours, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, puisque on n'est que ce qu'on est, que ce qui on est. Après, les discours, ça, c'est une autre... Enfin, je dis ça en faisant un discours, mais... Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a que la parole pour utiliser des mots et on n'a que les mots pour utiliser la parole. Donc,
On est obligé de discourir pour ne pas avoir de discours, ou dire qu'on n'en a pas.
Pour pas mourir, je sais pas. Bah non, pour se sentir humain, en fait. Je crois qu'il y a ce truc, c'est... Bah, je ne suis humain que parce que... Ce qui me diffère, c'est quand même la parole, c'est quand même les mots. Et voilà, donc forcément, on l'utilise. Puis bon, j'ai un micro tendu vers moi, donc je vais pas faire des bruits de bouche. Je vais pas faire des tatata, tout, 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 tititi. On pourrait hein, essayer, mais... Et interroger d'autres mammifères non humains dans le coin. J'en vois pas beaucoup, mais... Bien qu'il y ait des humains qui ne sont pas trop, mais...
Il y a des percussionnistes vocaux.
Ah, tu parles de gens qui font du beatbox et tout ça ?
Ah, par exemple, oui, c'est une bonne idée. Mais après, toi, étant percussionniste, peut-être tu t'es pas penché sur cet aspect du...
Ah, si, sur la voix, sur l'utilisation du... C'est marrant que tu dis ça, parce que on parlait de la transmission, et moi, je travaille beaucoup sur, à partir d'une phrase qui est utilisée par Deleuze, mais qui est utilisée par Georges Bataille aussi, sur le bégaiement. Et pour moi, il y a une poésie du bégaiement, parce qu'il y a un rythme, en fait. Je vais parler des impossibilités. Et là aussi, voilà, quelque chose qui permet de toucher quelque chose qu'on ne voit pas quand on n'est pas concerné. Moi, c'est ces choses-là. Tout à l'heure, on parlait en off d'une connaissance commune qui est non-voyante. Et bien, je trouve qu'elle fait des choses qu'une personne voyante ne fait pas avec une table de mixage, par exemple. Parce que c'est le geste, c'est... L'appréhension du lieu n'est pas la même, toutes ces choses-là.
On peut le nommer pour lui rendre hommage.
Je ne connais pas son nom de famille, malheureusement. Je crois qu'il bosse à Radio Campus, justement, à Clermont. Donc, salut Nicolas, si tu nous entends. C'est bien Nicolas son prénom, il me souvient.
J'ai l'impression que oui.
Donc, salut Nicolas, c'est Alexis. J'ai joué à l'époque à l'Office du Tourisme. Je venais tout juste d'arriver à Clermont-Ferrand.
Ça aussi, tu vois, faire un focus sur le son du concert.
Ouais, je sais que ça, c'est un truc. Après, Marco, c'est lui qui prend beaucoup sur tous ces aspects-là, c'est surtout lui, tu vois. Qui... Ouais. Tu avais une autre question, peut-être.
Peut-être une description de ta configuration, ce qu'il y a dessus. Ben peut-être que
en
ça serait mieux.
La balance, on va le faire.
Ça, tu dis alors là, je joue tel truc et tu le fais.
Mais moi, je peux déjà dire que je joue des percussions sur lesquelles reposent beaucoup d'objets.
Oui, j'ai remarqué que Caisse Claire, Tom, c'est plutôt un plan de travail que.
C'est un plan de travail, oui, exactement. J'aime bien que tu dises ça. Bon, sauf que je n'utilise pas des couteaux pour couper de la viande, bien que j'y pense, il faut le savoir. Pas de la viande, mais du poisson plutôt, mais bien que j'y pense, hein, d'un côté percussif qui m'intéresserait. Mais c'est un poste de travail où je mets des objets dessus, donc des objets résonnants, des petites cloches très résonnantes, des pierres résonnantes, des bois aussi.
Pas forcément des objets qui ont été prévus ou conçus pour être un instrument.
Non, il y en a qui sont conçus pour être sur une paroi, donc sur une montagne. D'autres qui sont conçus pour être sur un arbre, je pense. Et d'autres qui sont façonnés par la main de l'homme, mais qui sont un peu contrariés là, en étant là comme ça. Dans des réveils.
Dans ta position, tu es à l'affût,
C'est à l'affût
d'un événement sonore qui pourrait être utilisable, exploitable dans ton travail.
Ben, j'essaye d'être toujours, en tout cas, ouvert sur cette possibilité que quelque chose arrive. Et je pense que, par exemple, ce rire qui est arrivé et cette moto. J'essaie d'être à l'affût des signaux, mais pas que sonores. Aussi de ces questions d'invisible, c'est qu'est-ce qui arrive à moi et qui nourrit ce que je suis en train de faire avec les instruments. Et on voit pas et on n'entend pas les mêmes choses. Toi, tu vas entendre quelque chose auquel, voilà. Moi, par exemple, je suis sensible à cette sonnerie de téléphone et quelqu'un qui ferme sa porte derrière, quelqu'un qui est rentré derrière toi. Mais est-ce que je l'aurais entendu si je l'avais pas vu et... Alors que j'ai entendu celle qui est derrière, mais que je ne l'ai pas vue. Donc, toutes ces choses-là, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on croit entendre quand on voit, ce qu'on croit voir quand on entend. L'avantage du scooter, c'est qu'on l'entend toujours, qu'on le voit ou pas. Hein. Il y a une très belle interview de Jean-Luc Godard sur, par Thierry Jousse, que tu dois voir qui c'est, je pense, Thierry Jousse. Et où il est questionné sur le son et on entend comme ça des voitures qui passent, la sonnerie des pompiers le premier mercredi du mois et ça sature la bande, c'est assez intéressant. Moi j'aime bien cet aspect, donc ça noie la parole, on n'entend plus. Et du coup ça prend une toute autre tournure là, ce qui est dit. Voilà.
Tu fais avec les pierres, ça te va pour les overheads ?
Ouais, très bien.
Est-ce que écouter, c'est entendre et entendre, c'est écouter ou ce sont deux choses différentes ?
Ah là là. Si je pouvais avoir la réponse, je crois que je serais. Je ne sais pas si je serais heureux parce que j'aurais plus de recherche là-dessus. Non, mais l'écoute, c'est quelque chose de très particulier, sur lequel on peut parler pendant très longtemps. Mais écouter un son, c'est pas la même écoute qu'écouter ce qu'on appelle une musique ou écouter du bruit. Parce qu'on n'y met pas, et c'est là où je pense qu'on y met des affects, en tout cas. Ou que des affects sont mis. On y met et on est mis d'affects, en fait. On est affecté de ces choses-là. Et affecté de, c'est pas affecté par. C'est tout un jeu, je pense, comme ça, avec soi et avec le monde qui est un petit peu différent. Et là, ben, on va voir ce qu'on disait. Voilà, et donc il y a des gens qui parlent.
Tout de moins à faire, tu vois.
Donc ça veut dire qu'en fait, il y a quand même encore des gens en short en octobre à Toulouse. Intéressant, des gens qui sortent de manifestement du sport avec du vin blanc en short. C'est ma foi tout à fait. Voilà.
Et les étudiants avec lesquels tu.
Qu'est-ce qu'ils penseraient de ces phrases?
je me demandais, c'est des gens qui sont sur un cursus artistique,
oui, ils sont,
tu disais?
Ils sont aux Beaux-Arts, ouais. Ils sont. Moi, je les dévie en faisant des études de musique avec moi. Non, mais j'essaye de trouver une place du son, de la musique, de l'écoute dans leur pratique. En tout cas, de leur donner des petits indices de quelque chose. De toute façon, on ne peut faire que ça.
C'est l'École des Beaux-Arts qui t'a sollicité ou c'est toi qui t'es dit il y a peut-être moyen
à partir de... Non, mais j'ai pas du tout cherché. Moi, c'est des accidents, toutes ces choses-là.
Ah. Et tu t'es dit pourquoi pas?
Eh ben, je pensais que j'étais un très mauvais pédagogue. C'est-à-dire, je pensais que j'étais un peu dur. Et en fait, j'ai fait deux workshops avec eux et elles. Et puis, c'était beau, c'était très très beau. Ça m'a beaucoup plu. Et là, ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Oui, c'est les prix m'ont demandé, en fait.
D'accord.
Je crois par retour de certains étudiants et étudiantes.
Donc au début, c'était ponctuel, des ateliers, puis ensuite, ça s'est un peu installé.
C'était deux workshops, puis ça s'est installé, où ils m'ont demandé de gérer un cours autour de la musique, puis il n'y avait personne qui fait ça.
Et comment ça se passe? Tu arrives avec une sélection, et tu leur fais écouter, tu leur demandes ce qu'ils en pensent?
Il y a un travail de playlist, il y a un travail d'écoute, il y a un travail de faire aussi, d'expérience rythmique, de travail autour de la parole, du chant, de la voix, du cri. Des murmures, ben, c'est marrant, on parle du cri, le cri d'enfant. Chose qu'on ne peut pas imiter. C'est étonnant, enfin, le rythme du cri d'enfant, c'est incroyable. Donc on écoute, mais on écoute de la parole aussi, on écoute des films. C'est-à-dire qu'on ne les regarde pas, on les écoute.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est du coup, voilà. Par exemple, écouter La Jetée de Chris Marker, qui est pourtant un récit photographique. Le récit sonore est incroyable de Chris Marker. On peut regarder ce film sans le son, on peut le regarder avec le son, et on peut regarder que le son. J'aime bien dire regarder le son, mais la question c'est est-ce qu'on peut écouter des images comme on regarde le son? Parce qu'il y a en termes d'espace, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse écouter une image de la même manière qu'on regarde le son.
Et quand tu leur fais écouter un film, tu les plonges dans l'obscurité
Non, on le fait de plusieurs façons. Soit on fait au casque, soit... Oui, on fait des expériences d'immersion. Et on joue avec les contraintes aussi. C'est-à-dire que le lieu, l'école d'art de Clermont, a des espaces qui acoustiquement sont, je pense, te feraient peur. Des très mauvaises résonances, des trucs vraiment... C'est pas conçu pour ça, quoi. Donc on tire...
Mais c'est censé l'être ou...
Oh bah, comme un architecte fait un bâtiment qui est censé être bien pour le son. Donc c'est censé. C'est comme... C'est comme un médecin, c'est censé te soigner. Mais il y a tellement de paramètres après que c'est censé, quoi. Non, je pense que c'est pas vraiment censé. Il y a des panneaux acoustiques pour autant, mais c'est dégueulasse, le son est horrible. Mais du coup, on fait quelque chose de ça. Parce que sinon, on pleure, sinon on fait que geindre et on fait rien. Et ça, c'est un peu chiant, quand même. Donc, on tire avantage de cette chose-là, quoi. De ce désavantage. Voilà. Non, c'est Nico qui a appelé. Je crois que tu t'appelles pas Nico. On a le droit de dire ton prénom à la...
Oui, bien sûr.
Non, Nico est pas en bas.
Il était sur le toit tout à l'heure.
Bah, il va falloir que je tourne.
Bah ouais.
Il y a...
Ah, Yann qui m'appelle.
Tu es appelé par Anne.
Tu veux un coup de main?
Ouais.
Tu m'appelles Anne?
Ouais, c'est bon.
Merci. La porte, ça va?
C'est bon. Ok, bon, on va y aller. Allez, passe aux toilettes.
Je refais une truc. Hein. Toi, tu les aimes. Hein.
C'est celles qui ont le plus de succès. Hein.
Ouais, en tout cas avec toi.
Oui, ça c'est le point de l'espace. Donc là, alors attends.
Je vais mettre un...
Non, ils avaient déjà joué ce projet ensemble.
Oui.
Et un, tac, donc on va partir là-dessus.
Qui s'appelle comment d'ailleurs?
De
Étienne. Le projet.
Ah, le projet. Ah.
Le projet, c'est Alexis de Grenier solo.
D'accord.
Ah, en gras. Fait. C'est écrit là. C'est... Et le contact son, c'est Étienne Foyer. Oui. Je peux même donner le numéro de téléphone.
C'est quoi la radio là?
C'est une radio locale qui s'appelle Campus FM.
Ça s'appelle pardon?
Campus FM. Campus FM. Oui, je ne serais pas permis de demander votre prénom. C'était Photographie sonore d'Alexis Degrenier. Un documentaire radiophonique de François Berchenko. Enregistrement et entretien mené par François Berchenko à la salle Le Vent des Signes à Toulouse, quartier Saint-Cyprien, l'après-midi du jeudi 2 octobre 2025, durant l'installation et les balances du solo intitulé « Mouvement fantôme, membre miroir » proposé par Alexis Degrenier et le GMEA, en partenariat avec Le Vent des Signes et Un pavé dans le jazz. Avec Alexis Degrenier aux percussions, aux mécaniques, objets amplifiés, pots, résonateurs, pierres, bois, frottements, battements, corps, mains, réveil contrôlé, cercle et métronome. Un programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des radios Campus.